Mais ce serait dommage de ne pas immortaliser.
Tu l'as mis en route? Tu l'as mis en route? Il n'aura échappé à personne que nous sommes à la veille de Noël. Alors ce matin, en venant au culte, à quel message vous attendiez-vous? Certainement celui de l'annonce de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la naissance de Jésus, la bonne nouvelle portée par cette naissance, l'espérance qui s'ensuit, base fondamentale de notre foi de chrétien. Mais finalement, ce message de l'Évangile, ce message de la bonne nouvelle, n'est-il pas porté chaque matin en ces lieux, chaque dimanche matin en ces lieux? Alors, quelle différence cela fait-il de l'annoncer aujourd'hui, en cette veille de Noël? Les textes de ce jour nous permettent d'avoir un éclairage encore nouveau, une nouvelle facette de ce message d'amour porté par la parole. Les trois textes que nous parlent des relations Dieu-homme, de l'annonce de la venue d'un Messie, de l'image que les hommes ont eue de ce Messie, une image annoncée d'un Dieu puissant qui finalement arrive sous la forme d'un bébé. Image ultime de l'humilité et qui, par son sacrifice salvateur, nous libère.
Deux de ces textes, celui de Michée d'abord, puis celui tiré de l'évangile de Luc, sont des textes annonciateurs de la venue d'un Messie, l'ouverture d'une nouvelle ère, mais avec deux atmosphères, deux dimensions différentes, voire antinomiques. Michée annonce la venue d'un chef, d'un guide, puissant et glorieux. Rappelons-nous que ce texte date de 700 ans avant la naissance de Jésus. Cette annonce est faite à un peuple menacé par des envahisseurs voisins. Une toute autre atmosphère baigne le texte de Luc, une atmosphère familiale, de louanges et de prières. S'il fallait mettre en musique ces deux textes, le premier serait accompagné de trompettes martiales et de percussions éclatantes et assourdissantes, lorsque le deuxième serait rythmé par un son de flûte traversière accompagné d'arpèges pianissimo de harpe. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont d'ailleurs souvent opposés sur cette vision différente de l'annonce du Messie. Dans Michée, il est question de franchissement de frontières, d'envahisseurs, de libération et d'armes. Ainsi, les textes de l'Ancien Testament annonceraient-ils systématiquement la venue d'un Messie guerrier, puissant?
En fait, non. La puissance de Dieu, elle est célébrée dans toute la Bible. D'ailleurs, même dans notre confession de foi, ne disons-nous pas « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». De même qu'à la fin de notre Père, nous disons « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Donc l'annonce de la puissance de Dieu est diffuse dans toute la Bible. Il serait réducteur de mettre tous les textes de l'Ancien Testament sous ce cliché de l'image d'un Dieu uniquement présenté dans le costume du guerrier. En effet, Dieu est également présenté autrement dans l'Ancien Testament. Ainsi, pour Élie, le Seigneur n'est pas à chercher dans le vent, ni dans le feu, ou dans le tremblement de terre, mais dans un souffle ténu. Mais est-ce que nous ne préférerions pas que Dieu se manifeste avec fracas? Est-ce que ce ne serait pas plus rassurant? Le silence peut faire peur. Faire un culte sans orgue aussi d'ailleurs.
Et sur cette notion de silence de Dieu, on en vient au lien avec le troisième texte, l'extrait de la lettre aux Hébreux. Dans ce texte, il est question du sacrifice du Christ. N'est-ce pas anachronique de le lire aujourd'hui? Pour nous, même si nous nous sommes pareillement interrogés, Francine et moi, finalement, nous vous proposons de répondre non à cette question. Non, il n'est pas anachronique de relier l'annonce de la venue de Jésus avec son sacrifice final. Par le sacrifice du Christ, fin des sacrifices rituels d'animaux. Au-delà du soulagement des défenseurs de la cause animale, il faut se rappeler ce qui était visé par ces sacrifices d'animaux. Il s'agissait de laver les hommes de leurs péchés par le sang versé. Mais le sans cesse renouvellement de ces sacrifices d'animaux remettait sans cesse en mémoire de l'homme son statut de pécheur. Par le sacrifice du Christ, nous sommes purifiés du péché, sortis de ce cercle infernal du péché sans cesse renouvelé. Par sa mort, le Christ a rendu possible ce qu'aucun sacrifice ne pouvait accomplir. L'annonce de la naissance de Jésus est une bonne nouvelle, mais elle est amplifiée par le sacrifice de sa vie, car Christ est sauveur. En évoquant le sacrifice et la souffrance, on ne peut malgré tout s'empêcher de penser au cri du Christ en croix, reprenant les paroles du psalmiste « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous sommes là encore bien loin de l'image du Dieu surpuissant. Dieu ne nous écrase pas par sa puissance, mais nous laisse un espace de liberté. Dieu est amour, tellement amour qu'il fait silence sur le chemin des hommes afin que librement chacun le cherche, le recherche ou le rencontre.
Aussi, loin de nous couper de Dieu, ce silence nous oriente vers une relation à Dieu dans un dialogue. Il nous incite à ne pas l'attendre systématiquement dans une manifestation glorieuse, mais à le discerner au cœur de la fragilité, de la vulnérabilité. Pour nous aussi, il existe un souffle léger qui traverse nos vies. Le souffle de l'Esprit de Dieu, une brise légère. C'est par ce souffle que Dieu ouvre nos cœurs à l'amour, à la confiance, à l'espérance. Tout comme Élisabeth qui témoigne en son corps de la sainteté de l'enfant porté par Marie. Élisabeth est nourrie en son intériorité par Dieu, en Jésus et affermie par son esprit. Elle confirme d'une voix forte qu'il se passe là quelque chose qui veut donner à sa vie et par extension à notre vie un sens nouveau. Ensemble, nous recevons le cadeau d'une vie nouvelle. Réjouissons-nous et avançons ensemble avec celui qui fait toutes choses nouvelles. Amen.